Je suis maintenant avec Laureline Capello et Florian Glasser. Laureline et Florian, bienvenue au REC, le balado d'Hexagram. Tout en venant d'expériences différentes, vous rejoignez dans les domaines de l'art game et notamment dans la recherche-création vidéoludique. Est-ce que vous pourriez vous introduire brièvement puis nous raconter aussi un peu sur votre parcours?
Je suis donc Laureline Capello, je suis professeure à l'école NAD du CAC et je suis professeure en game design. J'ai eu un parcours qui était au départ plutôt en cinéma, mais finalement, vu que j'ai appris à programmer, j'ai décidé de faire des jeux vidéo. Et donc je suis venue au Québec il y a 15 ans pour ça et j'ai fait ma maîtrise finalement et mon doctorat en recherche sur le game design. Et aujourd'hui, j'enseigne le game design et je fais de la recherche, j'encadre des étudiants en recherche qui font des jeux justement, qui essayent de changer le monde, qui essayent de proposer des nouvelles idées à travers la recherche-création.
Je m'appelle Florian Glasser, je suis programmeur chez Ubisoft. Donc pour mon parcours, je suis arrivé à Montréal il y a 15 ans. Avec Laureline, j'étais étudiant en programmation. J'ai commencé tout de suite à travailler dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai commencé à travailler dans des entreprises qui travaillaient sur l'époque sur les jeux flash, les jeux pour enfants, des jeux publicitaires, etc. Et je travaille maintenant dans le milieu des jeux AAA sur Rainbow Six Siege.
Et en plus, vous venez tout juste de présenter ensemble à ICA le paper Things Happen, Rethinking Our Relationship with Authoring Tools with Non-Teleological Action. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu sur la présentation que vous venez de finir?
Oui, donc le titre est un peu impressionnant puisque c'est sur l'agir non-téléologique, mais tout ce que ça veut dire non-téléologique, c'est que notre action n'est pas entièrement déterminée par nos buts. C'est une conception philosophique qui est dépassée, mais qu'on continue à avoir quand on dit « Ah, je veux faire des jeux, je veux que le jeu soit comme ça », on se fixe une sorte de but et on se dit « Ah, faut absolument atteindre ce but, donc il faut que je prenne les meilleurs moyens, les meilleurs logiciels, les meilleurs outils pour atteindre ce but-là ». Mais le but de la communication, c'est de dire « Ben non, en fait, l'action humaine, elle n'est pas téléologique avant tout. On n'agit pas juste en fonction d'un but. Pendant qu'on agit, souvent, on découvre des nouveaux buts, on découvre des nouvelles choses à faire. C'est pas mal ça, la créativité dans ce sens-là. Et donc, l'idée, c'était de montrer avec un jeu vidéo qu'on a créé ensemble comment on a vraiment une action qui est non téléologique. Donc, on a un but, mais finalement, on fait 25 détours, on revient en arrière et on fait pas du tout le jeu qu'on pensait faire au départ. Mais le processus est quand même intéressant et en fait c'est la nature même du processus créatif de faire ces retours en arrière, ces boucles, etc.
Le jeu a été fait dans le cadre de l'ultime d'arrêt qui est une game jam, donc c'est 72 heures pendant lesquelles on doit faire un jeu from scratch du début à la fin et le finir. Et donc c'était le troisième d'une série de game jam qu'on a fait ensemble avec thème commun de failure. Et sur cette game jam, on a décidé de faire un jeu basé sur un engin physique où on doit empiler des cubes, etc.
Mais ça me plaisait pas vraiment que ça soit un engin physique où on empile des cubes, parce que les engins physiques sont un peu glitchy. Il faut vraiment les fine-tuner pour que ça soit agréable de manipuler des engins avec de la physique, parce que généralement ça fait juste que les cubes vont un peu dans tous les sens, ils sont très difficiles à contrôler. Et comme on fait plutôt des jeux narratifs où on essaye de dire quelque chose d'assez précis, mais si je contrôle pas vraiment le gameplay, ce que font les gens, c'est très difficile d'orienter l'expérience. Donc au départ, j'étais assez contre et je voulais pas spécialement faire ça.
Donc on est parti là-dessus quand même et c'était effectivement un peu un problème de insérer de la narration dans quelque chose qui est par définition difficile à contrôler et c'est ça. Donc il y a eu quand même des ajustements au début, j'ai proposé une idée, puis après on a comme réajusté des trucs, puis au final, comme elle disait, au final on a quand même réussi à faire un très bon jeu, je pense. Donc moi, mon idée de base, c'était juste d'empiler des cubes, un peu comme un jouet dans lequel on doit faire la tour la plus grande. Donc toutes les 10 secondes, qui était le thème de la game jam, qui était toutes les 10 secondes, de nouveaux cubes arrivent et on les empile. Et on voit jusqu'où on peut monter en hauteur en construisant la tour.
Et en fait, petit à petit, on a changé cette idée. Donc en fait, il y a de plus en plus de cubes qui tombent sur une plateforme qui est au-dessus de l'eau. Et au début, bah, il y a un cube, deux cubes, donc c'est facile de les garder sur la plateforme. Mais peu à peu, il y a de plus en plus de cubes, c'est de plus en plus difficile de les garder sur la plateforme. Et si le cube tombe dans l'eau, la plateforme rétrécit. Donc, ça fait un cercle vicieux, en fait. Il y a de plus en plus de cubes, il y en a de plus en plus qui tombent, la plateforme rétrécit de plus en plus. Donc, c'est sur le thème de la failure, c'est que, en fait, c'est un jeu qu'on peut pas vraiment gagner. Le but, c'est de nous faire réfléchir à tous ces cubes qui tombent. Et c'est devenu une métaphore, en fait, des tâches qui nous arrivent dessus dans la vie. Dans les études du jeu, il y a d'autres jeux comme ça, Tetris, c'est un peu la même idée. On a tout le temps des pièces qui arrivent et c'est difficile de faire qu'elles disparaissent. Bah, là, c'était la même idée, mais avec des cubes qu'on doit garder. Et la métaphore, c'est que finalement, c'est pas vraiment possible de prendre toutes les tâches, de gérer toutes les tâches. C'est pour ça que c'est des things et que les things arrivent et que au bout d'un moment, faut let it go, faut juste les laisser faire. On n'est pas obligé de toutes les garder sur la plateforme. Nous, on se considérait pas comme app gamer dès le départ. En fait, on fait juste des jeux ensemble parce qu'on trouve que c'est le fun. Dans notre temps libre, on veut faire autre chose que des jeux AAA. Ou moi, je fais principalement des jeux avec mes étudiants pour que les étudiants apprennent à faire des jeux. Donc l'idée là, c'est de pouvoir faire des jeux où on peut dire d'autres choses, où on peut essayer, voilà. Mais au départ, on n'était pas spécialement dans le mouvement de l'art game. L'aspect critique était central, mais plus parce qu'on avait envie d'être critique. Donc, qu'est-ce que l'art game? Ben, on sait pas vraiment. Et est-ce que vraiment on est des art gamers?
C'est difficile à dire. En tout cas, comme Lorraine l'a dit, nous, on fait des jeux ensemble parce que c'est intéressant de faire des jeux. On a quand même un message toujours et une critique dans ce qu'on fait. En comparaison, par exemple, moi, je suis ingénieur, ça m'arrive sur mon temps libre d'expérimenter avec des technologies, etc. Où là, effectivement, c'est des choses qui sont faites sans message ou sans intention. Alors que là, les jeux qui ont été présentés, c'est toujours des jeux qui avaient une intention derrière. Mais est-ce que ça suffit à refaire un game? C'est compliqué.
Mais parlant de messages, justement véhiculés dans votre présentation, il y a j'en ai retenu deux, assez quand même assez fortes, assez puissantes. Un c'était Don't be a tool, et le deuxième c'était Avoid the Tailor's Trap. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus qu'est-ce que vous voulez dire par ces deux messages-là?
Les outils définissent pas ce qu'on peut faire avec. Puis l'étape même après ça, c'est que non seulement les outils définissent pas nécessairement ce qu'on peut faire avec, donc on peut les détourner, etc., mais que si on considère les outils moins péjorativement, ben c'est plus des partenaires dans la création que justement le côté instrumental des tools. Et donc repenser nos outils, revoir notre relation avec eux, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Puis en fait, on m'a posé la question « Don't be a tool », est-ce que moi je le voyais comme ne subis pas la technologie, mais c'est vrai que c'est encore une forme de pensée où je vois la technologie comme un peu inférieure ou comme une invention humaine au service de l'humain. Mais ce qu'on voit de plus en plus dans la conférence à ICA et dans les papiers, c'est que bah, y a une agentivité des outils, il se passe vraiment quelque chose au niveau des outils, faut réussir à les considérer différemment. Et nous, c'est quelque chose qu'ils ont un peu dans notre pratique, justement parce qu'on a des profils différents et que Florian, en fait, maîtrise très bien la technologie. Et donc, pour nous, la technologie, c'est quelque chose de très positif.
Justement, dans une approche spécifiquement à recherche-création, où, comme vous dites, le processus est plus important que le but final, si jamais.
Oui, bah, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler avec Florian, c'est parce que souvent, il a des envies technologiques. Puis quand on les écoute et qu'on les respecte, ça fait des choses intéressantes.
C'est parce que de la même façon dont on a des intentions par rapport au message ou à les critiques, par exemple, quand on fait quelque chose. En tant qu'ingénieur, j'ai aussi des intentions par rapport à l'outil lui-même. Soit c'est une nouvelle technologie que j'ai envie d'expérimenter, comme là, par exemple, pour ce jeu-ci, les engins physiques. Mais des fois, ça peut être des intentions d'essayer de faire des jeux d'une certaine façon, de m'y prendre soit d'une certaine façon ou de créer des outils pour d'autres créations plus tard. Donc des fois j'ai des intentions cachées quand je fais un jeu qui est en fait de développer une technologie ou d'expérimenter une pratique pour après faire d'autres jeux.
Et il y a aussi un côté éthique et politique. Par exemple, nous on aime beaucoup les outils open source. Et quand on utilise des outils qui sont pas open source comme Unreal Engine, on va avoir tendance à vouloir les subvertir, vouloir voir c'est quoi leurs limites, quel système ils représentent. Dans l'autre jeu qu'on a fait ensemble avec mes étudiants aussi, c'est LTRS, bah, on essaye d'explorer c'est quoi les jeux qu'on fait habituellement avec un gros engin comme Unreal Engine, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme autre jeu, comment on peut changer notre façon de voir les outils, comment finalement on peut en faire des partenaires, même si à la base Unreal Engine ça semble caractériser un certain type de jeu et un certain type de pratique. Donc tout ça est possible d'explorer justement dans des pratiques qui sont alternatives, qui vont pas être commandées bah, par l'industrie souvent.
Donc par exemple la recherche création en milieu pédiologique, ce qui est intéressant, c'est que c'est à mon avis, bien sûr, que on a l'habitude de dire que la technologie en forme de construction sociale est les normes de genre, mais dans votre cas, vous portez ça encore plus loin pour parler de l'outil technologique qui est utilisé, qui peut lui-même, comme par exemple Unreal Engine, nous conduire à une série de clivages dont on peut avoir plus ou moins conscience. De quelle façon votre approche ou votre angle, votre perspective pourrait jouer un rôle aussi dans notre prise de conscience de ces clivages-là?
Je pense que tu l'as bien dit, les outils pour moi, ont aussi des biais genrés. C'est assez net dans un outil comme Unreal Engine, parce que je développe beaucoup le fait que, par défaut, Unreal Engine, ça fait des shooters, la lumière va être plutôt sombre, les environnements vont être c'est ça, sombre et torturé. Donc moi, j'ai voulu faire un jeu qui soit rose, très éclairé, très joyeux, etc. Qui est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire avec Unreal Engine. Donc globalement, j'ai saoulé tous mes étudiants, parce que je leur ai dit « Non, ce que tu fais d'habitude, ça marche pas, on va faire différemment. » tu pourrais parler par exemple à l'éclairagiste Gilles qui à qui j'ai fait refaire la lumière plusieurs fois parce que j'étais comme non, c'est pas ce genre de lumière que je veux. Et il pouvait pas travailler avec les paramètres par défaut de Unreal parce que ça donnait pas ce qu'on voulait. Donc il y a ça, mais il y a le processus même de design, le fait de se reposer sur des outils et de les dominer, de les maîtriser, c'est tout le vocabulaire qu'on a tendance à utiliser. Ça aussi, c'est genré. C'est une vision très dominatrice de la technologie, alors qu'en fait, finalement, nous, on montre aussi comme couple de hard gamers qu'on a une relation beaucoup plus douce à la technologie, beaucoup plus genre, ah, ça va nous permettre de faire quelque chose en un week-end. On n'est aussi pas trop dans la fascination technologique parce que Florian, il serait capable de programmer avec pas mal n'importe quoi. Et on peut faire des jeux qui soient à trait des démonstrations de force, mais on a tendance ensemble à faire des jeux qui sont beaucoup plus low-key, ils sont presque low-tech par rapport au genre de technologie qu'on utilise dans notre travail. Mais ça aussi, c'est une façon de dire, bah, faire des jeux, ça peut être toutes ces pratiques-là, et de revaloriser des choses qui sont souvent dévalorisées et souvent associées aussi à des pratiques féminines. Donc, il y a vraiment le côté, les hommes font des gros jeux avec des gros cailloux dans Unreal. Ben non, on peut faire autre chose que ça, puis c'est quand même faire des jeux. Et c'est là aussi où la question de l'art game est assez difficile, c'est est-ce que nos jeux c'est de l'art game juste parce qu'on fait pas ce que fait tout le monde, ou est-ce que c'est juste des jeux? Est-ce qu'on a besoin de se mettre l'étiquette art game pour être reconnu? Là, on est un peu dans cette position-là. On est un peu genre, ah, ben, on est obligé de se mettre art gamer parce que sinon, on va avoir des problèmes. Dans le panel, on a demandé justement qu'est-ce que le côté artistique peut amener au game designer, puis qu'est-ce que les game designers peuvent amener au côté artistique. Peut-être une réponse que qui me vient maintenant, qui était en filigrane dans le panel, c'est que bah, quand tu embrasses une pratique artistique, tu embrasses aussi une certaine liberté, et tu peux te permettre des choses qui sinon vont avoir du mal à passer dans différents milieux. Donc nous, je pense que c'est peut-être une raison pour laquelle on est venu à ISEA et qu'on trouve intéressante. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est que ici il y a beaucoup de d'un côté de liberté, genre moins de justification par moment.
Ça m'amène à une de mes dernières questions, c'est justement la question de mieux être et la possibilité d'être mieux à travers la création et l'utilisation des jeux aussi. J'ai envie de te poser la question sur la chaire de recherche dont tu es co-titulaire, qui est la chaire Créate, si tu as envie de nous raconter un peu plus.
Oui, bah c'est ça, c'est une chaire qui est en économie créative et mieux-être. Et le mieux-être, ça peut être beaucoup de choses. On pense souvent immédiatement à la santé quand on dit mieux-être, mais une partie moi qui m'intéresse beaucoup, c'est en fait être mieux, c'est aussi pouvoir exprimer son opinion. Et donc dans une démocratie, il y a cette idée-là qu'on est censé pouvoir exprimer ses opinions et faire des choses différentes. Et ça, c'est une grosse partie du mieux-être en fait, la participation démocratique. Ça va aussi avec la citoyenneté culturelle. Donc citoyenneté culturelle, c'est l'idée que oui, on peut consommer de la culture, mais on peut aussi produire de la culture. Et avec les outils aujourd'hui qui existent, il y a cette possibilité de plus en plus de créer des jeux. Avec la recherche-création, il y a cette possibilité de créer des jeux dans un cadre académique. Et donc ça, c'est une forme de musette, parce que pouvoir exprimer ses idées, pouvoir mettre le doigt sur quelque chose en faisant un jeu, ben, ça nous permet d'aller mieux, de construire notre identité, de s'exprimer dans une démocratie, de faire passer des points de vue différents. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez central dans notre pratique aussi.
Dernière question, un peu plus légère. Si dans l'immense vastité d'options que ISEA nous offre en termes d'exposition, symposium, talk, panel, etc., vous devriez choisir une chose pour me recommander ou pour recommander aux personnes qui nous écoutent, ça serait quoi votre choix?
Dans l'exposition qui était au Musée des Arts de l'Université de Séoul, on a vu un film où c'était un mix entre justement de la technologie et des aspects humains. J'ai trouvé que ce film-là était très réussi, à la fois dans l'esthétique et dans les métaphores qui étaient développées. C'est vraiment venu me chercher. Et puis c'était aussi très drôle, ce qui était proposé. J'essaie de trouver un des exemples, mais c'était assez court, plein de petits exemples où on voyait par exemple recoudre une machine. Donc recoudre, c'est plutôt de la peau humaine, etc. Mais là, c'était une machine. Donc celui-là était un... Ça fonctionne sur un dispositif assez classique de déplacement des métaphores, mais il était aussi très réussi plastiquement. Il y avait quelque chose dans le traitement de l'image qui était très intéressant. J'ai beaucoup, moi aussi, aimé les artist talks. Je pense que c'est vraiment un highlight de ISEA de pouvoir entendre des artistes parler de leur travail. Je suis allée plus à ce genre de présentation qu'aux présentations académiques, parce que je trouve que c'est vraiment un format qui mérite d'être mis de l'avant. On a vu, entre autres...
J'ai oublié son nom. Étudier les Death Animation. C'est une chorégraphe de métier. Et elle a étudié... les Death Animation, puis elle avait une pratique que j'ai trouvé très intéressante, où elle a essayé de trouver la meilleure animation de mort, donc la chorégraphie, et elle s'est elle-même placée en tant que comme un agent de comme si elle était une IA elle-même, donc elle se faisait le public pouvait comme lui donner un score pour dire si son animation était bonne ou pas bonne, et elle refinait, donc elle recommençait son animation jusqu'à ce que le public lui donne un score parfait, ce qui en moi en tant qu'ingénieur est trouvé ça très très intéressant, parce que c'est comme ça que les IA fonctionnent pour les entraîner. Donc j'ai trouvé que à la fois son côté chorégrapheur qui regarde des animations de mort, qui moi en tant que développeur de AAA a vu une fois dans ma vie sans trop me poser de questions, et à la fois qu'elle se place comme un agent de reinforcement learning, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais.
C'est une bonne boucle sur notre talk qui était sur les outils. Bah, là, elle, c'était presque elle l'outil. On était dans un côté renversé, et ça nous montre que c'est ça. Bah, dans ce cas-là, l'agentivité était comme cette agentivité un peu plus plate, un peu plus symétrique dont on a parlé pendant la conférence.
Et que ce n'est jamais une question exempte de jugement.
Oui, c'est vrai.
Ni expectative, qui était exactement ce qui venait l'entraîner en tant qu'agent par rapport aux réponses de la part du public.
Oui, tout à fait.
Ben, écoutez, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci pour cette entrevue.
Merci, Paloma.
Je vous souhaite une excellente continuation et bravo encore pour votre conférence.
Merci, Paloma.
Merci.